Eh bien, nous accueillons Sylvia Krostowska, Joël Guéraud, Guy Girard, pour nous parler de rêve, révolte, révolution, une anarchéologie du surréalisme. Vous avez la parole.
Bonjour. Alors, d'abord, je vais nous présenter. Je vais présenter... Donc, nous sommes trois membres du groupe surréaliste de Paris, ce groupe surréaliste qui, en fait, se prolonge depuis 1922, puisqu'il a commencé réellement à fonctionner 2 ans avant la parution du Manifeste de Breton. C'est le même groupe. Il y a encore parmi nous quelqu'un qui était dans le groupe de Breton, qui est entré en 63. Le groupe surréaliste de Paris, ici donc nous sommes trois, Sylvia Krostowska, Guy Girard et moi-même Joël Guéraud. Voilà, nous sommes en tant que surréalistes, de temps en temps nous écrivons de la poésie ou d'autres choses, des textes théoriques, des textes critiques, ou bien nous faisons des boîtes comme Sylvia, des peintures aussi, comme Guy Girard, des dessins comme eux deux, et parfois il m'arrive d'en commettre aussi. Voilà, donc on a une activité régulière, on se réunit toutes les semaines, et on pratique beaucoup de jeux collectifs, pas seulement les cadavres exquis qui sont le jeu collectif célèbre des surréalistes, mais on en a inventé de nouveaux au fil des années. Et nous les pratiquons dans nos réunions. Alors on pratique aussi le collage, également collage individuel ou collage collectif. Alors ici sont exposées quelques œuvres de Guy. Hein, il y a 3 tableaux de Guy Girard. On n'a pas pu apporter beaucoup de choses parce que ça est des choses volumineuses, c'était difficile. Et puis un petit collage d'un ami anarchiste surréaliste, Frank Wright, qui est tout à fait à gauche, là près de la flèche orange. Et puis un dessin qu'a fait récemment une amie surréaliste, Catherine Stein, qui ne vit pas à Paris, donc qui ne peut pas être là avec nous ce soir, malheureusement.
Ainsi qu'une installation photographique de Michel Bordignon, qui a rejoint notre groupe il y a quelques mois.
Voilà, exactement. C'est très bien d'avoir ajouté ça, Guy. Voilà, donc nous avons intitulé notre intervention « Une anarchéologie du surréalisme ». Si nous avons choisi pour l'intituler notre intervention d'employer cette expression, ce n'est pas pour nous donner le plaisir de faire un jeu de mots, mais pour souligner que le surréalisme, contrairement à tantisme de l'art, de la littérature ou de la politique, n'est pas près d'être enfoui sous les sédiments de l'histoire et qu'il ne saurait faire l'objet d'une fouille de type archéologique. Une exhumation qui, dans la sphère de la culture, débouche généralement sur des commémorations pieuses, comme on l'a vu trop souvent dans les célébrations muséales qui ont émaillé l'an dernier le prétendu centenaire du surréalisme. Ce n'était pas le centenaire du surréalisme, c'était juste le centenaire de la parution du Manifeste de Breton, du premier manifeste du surréalisme en octobre 1924. Mais le surréalisme, en fait, comme Breton d'ailleurs l'explique dans ses entretiens et comme on peut le voir par soi-même, a commencé 5 années auparavant par notamment l'écriture des chants magnétiques de Breton avec Philippe Soupeau en 1919. Donc laissons aux commissaires de musée, des musées, le soin de faire ce genre d'erreur, ils en sont coutumiers. Alors, notre simple présence en ce lieu suffit à le prouver, le surréalisme est toujours vivant. Les tentatives de le reléguer dans le passé ne sont pas nouvelles. Elle remonte à l'histoire du surréalisme, publiée en 1945 par Maurice Nadeau, pour qui le mouvement avait pris fin à la déclaration de guerre. On sait qu'il n'en fut rien et qu'il s'était maintenu à la fois sous l'occupation, notamment au groupe de la main à plume, c'est des jeunes gens qui ont maintenu le flambeau du surréalisme pendant la guerre et qui l'ont payé pour certains de leur vie, hein, puisque Robert Rius, par exemple, a été fusillé par les nazis. Donc la main à plume est en exil aux États-Unis autour d'André Breton ou au Mexique autour de Benjamin Perret. Les historiens ont bien été obligés de reconnaître que le surréalisme avait repris sa pleine vigueur en France après la guerre, avec le retour de Breton à Paris. D'où la parution récente d'une histoire du surréalisme ignorée, qui justement retrace ce surréalisme d'après-guerre, mais cette histoire s'arrête curieusement à l'année 1969, c'est-à-dire au moment où une tendance minoritaire menée par Jean Schuster décide de dissoudre le groupe surréaliste. Or, ce qui est souvent présenté comme une autodissolution fut en réalité une suspension, suivie d'une reprise d'activité un an plus tard, où une fraction du groupe menée par Vincent Bounour a refusé sa liquidation. Fraction qui, entre autres, comprenait les poètes Hervé Delabarre, toujours vivant, Joyce Mansour, malheureusement décédée, une merveilleuse poétesse que j'invite tout le monde à lire ici, hein, qui est malheureusement décédée en 1986, si je ne m'abuse, Joyce Mansour, Marianne Van Hirtum, qui elle aussi, qui écrivait des poèmes, des contes sublimes qui viennent d'être réédités sous ce titre par la maison d'édition Laure Trésil et qui est décédée en 88, elle, Marianne Van Hirtum, qui faisait également de très beaux dessins. Les peintres Jean Benoît, Jorge Gamacho, Aurélien Doguet, qui était un libertaire, anarchiste, militant, Mimi Parent, l'ethnologue Roger Renaud, qui est toujours en vie, et le cinéaste Michel Zimbacca, qui a été membre de notre groupe jusqu'à la fin de sa vie en 2021. Il était entré dans le groupe de Breton en 1947. 49. Et depuis, avec le renouvellement des générations, c'est ce groupe qui perdure jusqu'à ce jour et se manifeste à travers de nombreuses expositions, des déclarations collectives, des publications indépendantes et des revues, comme le bulletin de liaison surréaliste dans les années 70, la revue Sur, acronyme pour Surréalisme, Utopie, Rêve, Révolte de 1996 à 2005, et maintenant notre revue Alcheringa, dont il y a deux numéros ici sur la table, vous pourrez regarder, terme qui signifie le temps du rêve dans la langue des aborigènes Aranda d'Australie. Pour mieux comprendre cette déconcertante pérennité, il convient de dissiper un malentendu. Le surréalisme n'a jamais été une avant-garde que dans les manuels scolaires et la vision réductrice de quelques journalistes ou professeurs d'université. À ce titre, il ne saurait être comparé et moins encore assimilé aux diverses doctrines et avant-gardes littéraires et artistiques qui ont jalonné le XXe siècle. Fauvisme, cubisme, expressionnisme, futurisme, art abstrait, vorticisme, constructivisme, rayonnisme, suprématisme, lettrisme et j'en passe. Comme le souligne André Breton dans ses entretiens, le surréalisme inaugure un geste d'une toute autre ampleur. Et là, je cite, « Du seul fait qu'à ses origines, il s'est donné pour la codification d'un état d'esprit qui s'est manifesté sporadiquement à toutes les époques et dans tous les pays, on ne peut pas lui assigner de fin plus que de commencement. Goya était déjà surréaliste au même titre que Dante, ou Cuccello, ou que Lautréamont, ou que Gaudi. Dans des siècles encore, sera surréaliste en art tout ce qui, par des voies nouvelles, visera à une plus grande émancipation de l'esprit. » Donc le thème sous la plume de Breton, le thème de l'émancipation, rejoint ici le thème le surréalisme. On est loin de la logique avant-gardiste qui, en dépit des meilleures intentions, consiste trop souvent, par une sorte de caricature inconsciente de la concurrence marchande, à s'évertuer de dépasser l'avant-garde précédente. Sans compter que ces avant-gardes se cantonnent généralement dans la sphère de l'art ou de la littérature. Le champ d'action du surréalisme est infiniment plus vaste, puisqu'il se situe d'emblée à un niveau éthique. Pour citer encore une fois André Breton, il s'agit de promouvoir un nouvel ordre de valeurs, inséparable du projet de libérer l'homme par l'appel à la poésie, au rêve, au merveilleux. Et bien entendu, comme ce projet, sitôt qu'il est envisagé dans toutes ses conséquences, ne va pas sans se heurter aux conditions sociales existantes, le surréalisme en est venu à adopter un point de vue révolutionnaire global visant à instaurer une nouvelle civilisation affranchie de toute forme de domination, d'exploitation et d'aliénation. On ne saurait faire moins dans l'état de détresse où se trouve le monde aujourd'hui, qui n'a rien à envier à celui qu'ont connu les fondateurs du surréalisme au sortir de la Première Guerre mondiale. Tout indique même que les conditions de la subjectivité ont empiré en passant des temps bourgeois au temps spectaculaire marchand et à l'âge cybernétique. L'économie capitaliste a renforcé son emprise, les classes dominantes n'ont jamais autant prospéré, tandis que l'immense masse des dominés est émiettée en d'innombrables particularismes qui l'empêchent d'accéder à une conscience révolutionnaire globale. Au refoulement et au puritanisme encore en vigueur jusque dans les années 60, s'est superposée, sans pour autant les supprimer, une désublimation répressive, pour reprendre un concept clé du philosophe proche du surréalisme, Herbert Marcuse. Il y a une interview de lui qui a été reproduite dans le bulletin de liaison surréaliste dans les années 70, hein, puis il était en lien avec les surréalistes de Chicago. Cette désublimation répressive qui s'impose dans la vie quotidienne dès le plus jeune âge. Dans de telles conditions, l'imagination libre, la capacité d'émerveillement, l'amour même, tout ce qui fondait et justifiait la quête surréaliste est tourné en dérision et chaque jour de plus en plus déconsidéré. Être surréaliste, agir en surréaliste, signifie maintenir le sens et la réalité de cette quête. Voilà pourquoi il est si important que des individus qui partagent cette exigence continuent à s'associer librement dans ce qui n'a jamais été ni une école, ni un parti, afin de maintenir l'esprit insurrectionnel du surréalisme contre toutes les instrumentalisations culturelles qui ne cessent d'en être faites, et on l'a vu avec éclat l'année dernière. Dès le début, le surréalisme s'est conçu comme tentative de reconquérir les pouvoirs perdus ou négligés de l'esprit. Et s'il est une activité mentale particulièrement négligée, voire méprisée par la mentalité positiviste dominante, c'est l'activité onirique. Certes, l'attention accordée au rêve n'est pas propre au seul surréalisme, puisqu'on la trouve déjà dans le romantisme, particulièrement chez Gérard de Nerval, pour qui le rêve est une seconde vie, et bien sûr dans le symbolisme. Baudelaire ne déclarait-il pas « Certes, je sortirai quant à moi satisfait d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve », tandis que le poète Saint-Paul Roux, lorsqu'il se retirait dans sa chambre pour dormir, il accrochait sur la porte une petite pancarte avec l'inscription « Le poète travaille ». Mais ce sont les surréalistes qui ont placé le rêve au plus haut de l'activité de l'esprit. Et ce, dans la mesure où ils y voient une alternative irréductible aux sommations de la réalité prosaïque du monde. « Prenez-moi tout, mais les rêves, je ne vous les donne pas », disait le poète yougoslave Radovan Ivšić. Car les rêves sont ce que chacun de nous a de plus propre, expression de notre sensibilité la plus profonde, enracinée dans notre histoire la plus lointaine, autant que de nos désirs les moins entravés, nous projetant dans un avenir à accomplir. Chaque nuit, le temps se reconfigure à notre image et à notre usage. Ainsi, est-ce une constante des revues surréalistes de publier des récits de rêves, de même que pour les peintres, de laisser le rêve guider leurs mains sur la toile, que ce soit par la transposition directe d'une fantasmagorie nocturne comme chez Salvador Dali ou la création d'un climat onirique comme chez Leonora Carrington, chez Toyen ou de nos jours chez Gina Litterland ou Guy Girard qui est à côté de moi. Le rêve est la porte ouvrant sur le merveilleux qui, selon Pierre Mabille, est la force de renouvellement commune à tous les hommes, quelle que soit leur culture particulière. Il permet d'entrevoir un avenir profond au-delà des frontières et des intérêts, une fraternité vraie qui a sa langue universelle dans la poésie et l'art véritable. Il est probablement la seule réalité qui conserve l'espoir en l'homme et l'avenir. C'est que la sphère du rêve englobe aussi la rêverie diurne, si propice à l'évasion dans la projection d'un monde meilleur, à l'élaboration des utopies. Fruit de ce principe espérance, qu'Ernst Bloch, le grand philosophe allemand, hérétique du marxisme, décelait comme propriété fondamentale de la conscience humaine, voire de la réalité objective tout entière. Si les surréalistes accordent tant d'importance à la vie onirique, c'est qu'elle contient en soi une inappréciable valeur d'émancipation. Chaque nuit, le rêve nous offre la vision d'un autre possible. Or, sans la vision, fût-elle lointaine et confuse, d'un possible désirable, il n'est de place que pour la résignation. Un monde qui, par tel ou tel procédé chimique ou chirurgical, aurait banni la faculté de rêver, serait un monde de robots soumis. C'est notre aptitude à rêver, à imaginer un ailleurs dans l'espace comme dans le temps, qui est le ressort secret de toute révolte. Et je vais passer maintenant la parole à Guy. Oui,
prends-le. Bonsoir. Second épisode. S'il est pour nous en ce monde chose aussi grotesque qu'une compétition olympique ou l'élection d'un nouveau pape, c'est bien l'art dit contemporain. Cet art qu'on peut qualifier de réaliste capitaliste parce qu'il n'a d'autre but que d'esthétiser la misère intellectuelle créée par le triomphe de la rationalité instrumentale. D'Andy Warhol à Jeff Koons, de tel crétin à tel autre qui propose sa Camelot de luxe de New York à Shanghai et de Londres à Dubaï, les recettes, quoique aussi plurielles que le permettent les usages de matériaux traditionnels et ceux des technologies informatiques, visent un même but. Offrir l'image d'une réalité réduite au seul discours que permet l'idéologie dominante. Certes, celui-ci se diversifie formellement sur une échelle sentimentaliste plutôt que sensible, allant du pur cynisme à la rodomonta de pseudo-contestataires, en passant par tous les degrés de la béatitude narcissique. Imposé par la classe dominante, cet art contemporain institué et promu tant par les milieux d'affaires que par les officines culturelles des États les plus riches se présente comme un académisme imposant sa domination sur toute autre forme d'expression sensible, et il doit être combattu comme tel. Contrairement à l'académisme des artistes pompiers contre lesquels s'élevèrent Courbet, Gauguin et tant d'autres, celui que nous dénonçons aujourd'hui a su prospérer en détournant à son profit le potentiel destructeur, aussi bien qu'utopiste, des avant-gardes de la modernité. En effet, ce qui était salutaire violence dénonçant le formalisme usé et la médiocrité intellectuelle des fausses gloires d'une époque maintenant lointaine a été, par les pontifes de l'académisme contemporain, revu et corrigé pour aboutir à un desservelage imposant la disqualification de toute recherche inspirée, capable d'ouvrir un renouvellement de la perception sensible alliée à une critique révolutionnaire de la nature de l'art et de sa place dans la société. Mais cette disqualification des meilleures avant-gardes et non loin d'elle du surréalisme réduit à ses premières décennies, cette réduction de leurs projets subversifs à la seule observation selon des critères formalistes de leur place dans l'histoire de l'art moderne, s'accompagne également d'une esthétisation forcenée, c'est-à-dire d'une acceptation dans le champ culturel de la classe dominante de pratiques créatrices venant originellement de milieux hétérogènes, principalement des jeunesses urbaines pauvres. Un énième fabricant de ready-made peut ainsi, dans une galerie à la mode, voisiner avec un peintre de street art débauché de sa banlieue et un performeur dialoguant avec une intelligence artificielle pour simuler une quelconque apocalypse. Tout cela nous ennuie, nous exaspère et nous fait préférer notre vieille âme de sauvage ou d'enfant révolté face à ces palinodies visant dogmatiquement à évacuer toute imagination hors du champ de la création artistique et de là, hors de toute compréhension autre que misérablement raisonnable, du fait de vivre. Mais dès lors, précisons que parlant de création artistique, nous voulons avant tout évoquer les images ou les objets de langage que nous révèle ludiquement ou expérimentalement notre écoute et notre quête de la pensée poétique, que nous confondons assez volontiers avec les produits de l'imagination ou de l'activité onirique. D'ailleurs, sommes-nous des artistes ? Nous ne sommes ni modestes ni orgueilleux, nous sommes ailleurs, puisque pour nous surréalistes, il n'y a pas d'art surréaliste, mais des surréalistes qui ont leur façon d'user de pratiques dites artistiques pour un but semblable à celui de la magie. Inutile de vous rappeler que le mot « magie » est l'anagramme du mot « image ». Il y a là de quoi réduire à néant bien des traités d'esthétique. Mais il y a surtout de quoi se révolter contre tout ce qui tente à réactualiser les atterrantes idées de l'art pour l'art et d'art engagé, dont l'opposition n'est en fait qu'apparente. Le tenant de l'art pour l'art, convaincu d'être niché sur quelques cimes olympiennes, loin des remous de la cité, peut condescendre à barbouiller d'outre-noir les vitraux d'une église, quand l'artiste engagé, affectant volontiers un tempérament grégaire, se donne pour mission de faire réfléchir ses concitoyens. Il a sur sa palette une gamme plus ou moins étendue d'outils d'analyse pour illustrer tel ou tel thème d'actualité, et plus il se veut provocant, moins il se différencie d'un besogneux travaillant dans les publicités. Ainsi, ces deux types d'artistes s'épargnent-ils de mettre en question dans leur pratique créatrice ce que celles-ci doivent ou non à ce que Kandinsky nommait la nécessité intérieure, la voie des désirs et de leur sublimation ? Encore moins se refusent-ils à mettre en jeu ce mouvement issu de leur inconscient et sa confrontation dialectique avec le mystère du monde ou de ses merveilles, par-delà le peu de réalité qui les masque. Quant à nous, c'est ce jeu-là qui nous importe, dont l'issue dépend de notre plaisir à nous livrer, individuellement ou collectivement, aux puissances de l'imagination. Cette faculté que l'on voudrait voir au centre de tous les débats nous importe tant parce qu'elle sait ô combien nourrir les passions et exiger d'elle qu'elle trace les contours d'un monde neuf. Aussi, le seul art qui veuille pour nous est celui qui, libérant l'imagination et ouvrant ainsi la pensée consciente vers des domaines encore inconnus mais non inconnaissables, incite tout d'abord à combattre la peur de la liberté qui rend les esprits si serviles. Et ce faisant, cet art rend possible l'accomplissement du contenu utopique du surréalisme, tel qu'il fut formulé par André Breton, et qui est non seulement de changer la vie et de transformer le monde, mais aussi de refaire de toutes pièces l'entendement humain.
Non, Sylvia.
Alors je reprends. Nous, surréalistes, tenons à garder constamment en éveil notre capacité d'émerveillement et à susciter les conditions sensibles d'une vie heureuse. Suivant les voies frayées par nos aînés, mais aussi en ouvrant de nouvelles. Pour rappeler les trois mots d'ordre de Breton et montrer, qu'on vient d'entendre, et montrer que le surréalisme d'aujourd'hui maintient le cap sur l'utopie, nous avons organisé l'an dernier l'exposition Merveilleuse Utopie et en avons rédigé le catalogue. Une centaine d'œuvres dues à des créateurs venus de 16 pays différents y étaient présentées selon un parcours poétique explorant les diverses dimensions de l'imaginaire utopique en 5 îles. Les songes, la révolte, les métamorphoses, l'amour et l'abondance. Durant 2 mois, plus de 6 000 visiteurs sont venus voir Merveilleuse Utopie. Ce n'est pas ce chiffre bien abstrait qui a causé notre plus grande satisfaction, mais la réaction de tant de jeunes gens qui en ressortaient en disant qu'ils avaient été émerveillés et surtout qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Notre but était de montrer l'actualité des idées surréalistes de toujours, reprenant les thèmes communs au surréalisme et à la pensée utopique émancipatrice, mais bien sûr à travers des œuvres récentes. Il nous semblait capital de nous démarquer de l'attendu, cet art contemporain de plus en plus surdimensionné, techniquement sophistiqué, nombriliste, se réclamant même parfois de l'inspiration surréaliste, sans être pour autant porteur de son esprit. Nous n'avions aucunement l'intention de nous laisser entraîner dans des affrontements sur une base idéologique, identitaire ou autre, car nous ne voulons pas ajouter au marasme intellectuel et sensible contemporain, mais bien plutôt ouvrir et offrir des percées vers une alternative, des sorties de secours sur une plus lointaine perspective et à partir de cet ailleurs imaginaire, susciter un appel d'air. Une exposition ouvertement politisée, prompte à chavirer dans l'intellectualisme, avec des discours placardés à côté de chaque œuvre, comme on en voit tant partout, ne nous semblait pas du tout adaptée à la situation, ni surtout susceptible de mettre le beau, c'est-à-dire le merveilleux, à la portée de tous. On sait que, dans le manifeste de 1924, Breton a défini le surréalisme comme, je cite, automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle, exercée par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Fin de citation. Et on sait également que le mot « révolution » apparaît dans l'intitulé de leur première revue. La révolution surréaliste, 1924-29, et le surréalisme au service de la révolution, 1930 jusqu'à 1933. Dès le début du mouvement, on se trouve donc en présence de deux questions névralgiques, celle de l'automatisme et celle de la révolution. Cette dernière ne saurait évidemment faire l'objet d'une activité professionnelle, ni résulter d'un processus automatique comme dans un certain marxisme issu de la philosophie hegelienne de l'histoire, mais plutôt relever d'un automatisme de la pensée et de l'action matérielle retravaillée par la dynamique collective à laquelle elle participe. Autant il est nécessaire de donner des réponses réellement émancipatrices à la question de la révolution, même si aujourd'hui elle paraît malheureusement plus éloignée que jamais des possibilités réelles, autant on peut émettre quelques réserves sur l'importance positive de l'automatisme comme moyen pratique de l'émancipation. À vrai dire, la réalité devient de plus en plus automatique, même si l'on n'est pas encore dans l'automatisation totalitaire qui nous est promise comme utopie par les technologies marchandes et politiques. Il suffit de songer à une forme de pensée individuelle qui se déprend de plus en plus de toute contrainte rationnelle en raison inverse de l'externalisation des savoirs et de la rationalisation croissante des opérations essentiellement économiques qui manipulent pour leur fin nos automatismes psychiques, cernant et déterminant en grande partie le quotidien du plus grand nombre avec son consentement. Mais une pensée libérée dans de telles conditions ne signerait-elle pas un effondrement de la pensée? La révolution qui nous incombe parce qu'elle est le plus à notre portée est donc en premier lieu cette refonte de l'entendement humain évoquée par Breton en 1946. C'est une révolution entamée depuis longtemps, mais inachevée, dévoyée, qu'il faut reprendre à un niveau supérieur et pas seulement sur celui des images. Elle se ramène à la résolution de soutenir la pensée créatrice dans sa lutte contre la société cybernétique et ses formes spectaculaires de pensée aliénée. Les images parasites, marchandisées, c'est le régime visuel qu'il nous faut dépasser sans être complice de sa reproduction. Détruire la maison du maître avec les outils du maître, quelle aberration! Évidemment, nous sommes dans une situation critique sans précédent, car le prolétariat actuel, cette classe de plus en plus nombreuse, est plus diversifiée et divisée que jamais, en proie à de nouvelles maladies de l'âme et allergies de l'esprit, voit, ce prolétariat voit, ou plutôt justement ne voit pas, soumise aux illusions de la fausse conscience qui prend jusqu'à la consommation de la révolte, ce prolétariat voit donc ses besoins capturés et détournés, avec toujours plus de facilité, captifs des dispositifs numériques telles que tout dernièrement la prétendue intelligence artificielle, désormais à la portée de la quasi-totalité de l'humanité. Dans notre infortune, nous ne pouvons guère compter sur l'imminence d'un soulèvement de masse. Des alliances sont, en revanche, à forger partout où la réflexion critique dialectique sur le monde et le désir utopique, réunis, entrelacés, se font jour. Ceux qui manifestent cette pensée hélice ne constituent pas, bien sûr, une classe révolutionnaire. Peinant à se reconnaître entre eux, leur symbolique ainsi que leur mythologie restent à creuser. Mais le surréalisme n'a rien perdu de sa capacité à nourrir un mouvement social. Pour l'instant, hélas, nous n'en sommes pas là. Dans un contexte comme le nôtre, la transformation envisagée par Breton dans le sillage de Charles Fourier prend de prime abord une dimension dérisoire. Les révolutionnaires doivent se changer surtout eux-mêmes, et ce changement n'est jamais gagné. Un effort quotidien est à faire, rien de moins. Mais ne nous trompons pas, trompons juste le système de l'illusion générale. C'est en procédant de façon souterraine, suivant pas à pas la vieille taupe aveugle dans ces galeries de l'avenir, que la révolution se fera ou elle ne se fera pas. Merci.
Quel beau mot de la fin et quelle performance à trois d'avoir tenu pile poil, hein, quand même le dire. Hein, c'est, bon, j'étais là, je m'inquiétais quand même. Bien. Alors, ce que je voudrais, y a-t-il des questions, des remarques? Oui, vas-y. Alors, oui.
Oui. Déjà, je voulais remercier les organisateurs pour que les désurréalistes soient venus, soient présents. Ça fait toujours penser que ce chemin sur lequel cheminent les anarchistes permet comme ça des rencontres, et cette rencontre, elle est ancienne, et elle se côtoie, et donc, bon, c'est plaisant de vous avoir écouté, là, même s'il y a de la complexité dans vos paroles, il faut le reconnaître. Et la question que je voulais évoquer avec vous, c'était justement la question de l'intelligence artificielle, l'IA. Récemment, ceci dit, j'ai entendu que IA, pour nous, ça voulait dire intelligence anarchiste, et non pas l'intelligence artificielle. Et je voulais justement me demander comment vous étiez confronté, vous, en tant que surréaliste, à cette émergence de quelque chose d'extra-humain, et comment vous pensez pouvoir y résister, ou en tout cas l'accompagner, ou y survivre.
D'abord, je ne pense pas du tout que l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et que moi j'appelle l'imbécilité absolue, IA, mais bon, chacun emploie le mot comme il veut, mais cette intelligence artificielle n'a rien d'extra-humain. Elle essaie simplement des supercalculateurs qui utilisent des données existantes, mais les données qu'ils ont pu ramasser. Tout ce qui échappe à la collecte de ces calculateurs échappe à l'IA, justement. Hein, donc, je crois qu'on abuse beaucoup, surtout dans les médias, avec cette idée d'intelligence artificielle qui va supplanter l'humain. J'y crois pas trop. Et surtout, il ne faut pas laisser aller à cette espèce d'illusion. Hein, il s'agit plutôt d'une illusion générale que d'une intelligence. Et on n'a pas, nous par exemple, nous n'avons aucune envie, on a d'utiliser le moindre logiciel d'intelligence artificielle, soit pour écrire, évidemment, hein, on ne va pas demander à ChatGPT de faire de l'écriture automatique, il en ferait sûrement, hein, mais bon, le résultat...
Le texte que vous venez d'entendre, bien sûr.
Oui, le texte que vous venez d'entendre, bien sûr, on l'a. Non, mais... C'est ma bêtise naturelle et celle de mes amis qui l'avons produite. Hein. Il est garanti sans IA. Alors, donc, cette intelligence artificielle, produit effectivement, vous savez, on peut faire écrire par des logiciels comme ChatGPT des poèmes dans le style de Baudelaire, hein, ils le feront. Bon. Mais ça, pour nous, ça ne nous intéresse absolument pas, évidemment. Et de même pour toutes les productions plastiques, notamment les dessins, les tableaux, etc. Et alors, ce qu'on a souvent remarqué, c'est quand on les voit sur Internet, ces productions plastiques faites par d'autres, évidemment, elles ont quelque chose... On a l'impression qu'il y a derrière... Elles se ressemblent toutes. Il y a quelque chose d'insatisfaisant derrière. Il n'y a pas d'élément émerveillant. Il y a, ceux qui s'y intéressent, à mon avis, sont des gens qui n'ont jamais vu un tableau, aussi bien un tableau fantastique, je ne parle pas d'un tableau surréaliste, hein, mais un tableau romantique fantastique du 19e siècle, de Fuseli ou de John Martin, par exemple. Ils n'ont même pas vu ça. Et quand on voit ces productions étalées sur le web, ça n'a vraiment rien de satisfaisant. Donc je pense que l'intelligence artificielle, en tout cas nous, on est complètement étrangers à ce genre de pratiques. Ça ne nous intéresse absolument pas, ni même de détourner ces logiciels-là. Je veux dire, on s'en fiche.
Alors, Michel, tu voulais rajouter, oui.
J'aimerais ajouter juste que je crois qu'il ne s'agit pas vraiment de se laisser prendre au jeu dans cette utilisation qui peut être juste une sorte d'expérimentation. Il y a des surréalistes qui s'intéressent à l'IA pour voir jusqu'où ça peut les amener. On connaît ces surréalistes, ce sont des amis aussi, mais... Mais je pense qu'il faut se rendre compte que l'intelligence artificielle sera beaucoup moins intéressante de ce point de vue un peu onirique quand il s'agit de la traduction des images, des images en autres images, générer d'autres images à partir des images existantes ou de générer des images sur les prompts. Ce moment sera quand l'intelligence artificielle ne hallucinera plus. Pour l'instant, elle n'est pas encore parfaite. Elle fait des erreurs, des choses dans le visuel qui sont parfois surprenantes. Mais ce qui manque, c'est l'aura aussi. L'aura dont parle Walter Benjamin, cette aura en fait manque réellement à ces images. Elle ne manque pas autant aux images des reproductions sur papier, on peut voir, ou sur toile, on peut voir en fait cette aura. Benjamin n'était pas d'accord parce que évidemment il ne voyait plus l'aura dans la reproduction mécanique, mais nous on peut dire par comparaison avec l'intelligence artificielle, les images produites virtuellement, il reste quand même un peu d'aura dans même ces feuilles de papier infiniment reproduisables.